Chapitre 26. Les miroirs. On ne devrait pas davantage laisser les miroirs accrochés au mur qu'on ne laisse traîner son carnet de chèques ou des lettres avouant d'odieux forfaits. Virginia Woolf. J'ouvre les yeux. Je reconnais la chambre. Blanche, minérale, intemporelle. Un sol en pierre de lave, des murs immaculés, une armoire et un petit bureau en bois peint. Des volets intérieurs à larges lames qui distillent une lumière rasante. Une décoration qui rappelle davantage le confort d'un hôtel que l'ascétisme d'une chambre d'hôpital. Je sais parfaitement où je suis. Chambre 6, Sebago Cottage Hospital, près de Portland, dans le Maine. Et pourquoi j'y suis? Je me redresse sur l'oreiller. J'ai l'impression de me trouver dans un no man's land sensoriel, telle une étoile morte, éteinte depuis longtemps, mais émettant encore de la lumière. Peu à peu, pourtant, je retrouve toute ma conscience. Mon corps est reposé, mon esprit s'est délesté d'un poids, comme après une longue plongée cauchemardesque qui m'aurait fait traverser les palais de la nuit, des songes et du sommeil, combattre le Cerbère et terrasser des furies, avant de remonter à la surface. Je me lève, fais quelques pas pieds nus jusqu'à la baie vitrée et ouvre la fenêtre. La bouffée d'air glacé qui s'engouffre dans la pièce me régénère. Le panorama qui s'offre à mes yeux est à couper le souffle. Entouré d'une forêt de sapins au versant raide, le lac Sebago étend ses eaux cobalt sur des kilomètres. Un véritable écrin d'azur au milieu des conifères. Une roche immense en forme de château fort culmine au-dessus des flots sur lesquels s'avance une jetée en rondin. Bonjour, mademoiselle Schaeffer. Surprise, je me retourne brusquement. Assise dans un coin de la pièce, une infirmière d'origine asiatique m'observe en silence depuis plusieurs minutes, sans que je l'aie remarqué. J'espère que vous vous sentez bien. Le docteur Kane vous attend près du lac. Le docteur Kane? Il m'a demandé de vous signaler sa présence dès votre réveil. Elle s'approche de la fenêtre et désigne un point à l'horizon. Je plisse les yeux pour apercevoir Gabriel, les mains plongées dans le capot ouvert de la Shelby. De loin, il m'adresse un signe de la main, comme une invitation à le rejoindre. Dans le placard, je retrouve la valise que j'ai emportée avec moi. J'enfile un jean, un pull chiné, un blouson, une paire de grosses chaussures, et je sors par la baie vitrée. Je me laisse porter, hypnotisé par le bleu profond de la surface du lac. À présent, tout est clair dans ma tête. Les souvenirs sont ordonnés, rangés dans les classeurs de ma mémoire. D'abord, le diagnostic alarmant de Clouseau, l'évocation par Seymour de l'existence du Sebago Cottage Hospital, ses démarches pour me faire admettre dans l'institution, mon départ pour les États-Unis, mes premiers jours à la clinique, l'implantation d'un pacemaker cérébral suivi d'une crise de panique, le déni puissant de ma maladie, mon évasion de l'hôpital, ma lutte avec le gardien, ma fuite vers New York, jusqu'à ce banc de Central Park. Puis cette rencontre insolite avec ce drôle de type, Gabriel Kane, qui m'a accompagné sur le chemin escarpé de cette journée insensée. Un jeu de pistes, au cours duquel mes terreurs les plus profondes ont refait surface. Le spectre d'Eric Vaughan, la perte de mon bébé, le traumatisme de la mort de Paul, mes doutes sur la loyauté de mon père et de Seymour, et, toujours, le refus d'admettre mon état de santé, jusqu'à me persuader de m'être réveillé le matin du 8 octobre, alors que nous étions une semaine plus tard. Bonjour Alice, j'espère que vous avez bien dormi, me lance Kane en refermant le capot de la voiture. Il porte un pantalon cargo à poches multiples, un gros ceinturon, un cardigan en maille côtelée. Sa barbe est drue, ses cheveux en bataille, ses yeux cernés et brillants. Les traces de cambouis qui marquent son visage comme des peintures indiennes le font davantage ressembler à un garagiste qu'à un médecin. Alors que je reste silencieuse, il tente d'engager la conversation. Je suis désolé pour la seringue d'anesthésique plantée dans votre cou. C'était le seul moyen de vous faire rejoindre les bras de Morphée. Il attrape la cigarette coincée derrière son oreille et l'allume avec un vieux briquet tempête. Je sais désormais que cet homme n'est pas Vaughn. Mais qui est-il vraiment? Comme s'il lisait dans mes pensées, il me tend une main luisante de cambouis et de graisse. Gabriel Kane, psychiatre, se présente-t-il de façon formelle. Je refuse de le saluer. Jazzman, magicien, agent spécial du FBI, psychiatre? Vous êtes le roi des mythos, oui? Il esquisse un sourire grimaçant. Je comprends que vous soyez en colère contre moi, Alice. Pardon d'avoir abusé de votre crédulité, mais cette fois, je vous le promets, je ne vous mens pas. Comme souvent, je sens que la flic en moi reprend le dessus et je le bombarde de questions. J'apprends que c'est son ancien associé, Thomas Krieg, le directeur de la clinique, qui lui a demandé de me retrouver à New York et de me ramener ici. Mais pourquoi avoir prétendu être pianiste de jazz? Pourquoi Dublin? Pourquoi les menottes, le ticket de consigne, les inscriptions sur ma main? Pourquoi tout ce bordel? Il exhale une longue volute de fumée. Tout ça participait d'un scénario écrit dans l'urgence. Un scénario. La mise en scène d'une sorte de jeu de rôle psychanalytique, si vous préférez. À mon regard incrédule, Gabriel comprend qu'il faut m'en dire plus. Il fallait que vous cessiez d'être dans le déni de votre maladie, que vous vous confrontiez à vos chimères pour vous en libérer. C'est mon métier. Reconstruire les gens, essayer de remettre de l'ordre dans leur esprit. Et vous avez inventé ce scénario comme ça? J'ai essayé d'entrer dans votre logique, dans votre façon de penser. C'est la méthode la plus efficace pour établir un contact. J'ai improvisé au fur et à mesure, en fonction de ce que vous me racontiez et des décisions que vous preniez. Je secoue la tête. Non, ça ne tient pas debout, c'est impossible. Il me lance un regard franc. Et pourquoi donc? Dans ma tête, la journée de la veille défile en accéléré. Puis des images se figent, suscitant autant de questions. Les chiffres de sang sur votre bras. Je les ai gravés moi-même avec un couteau suisse. J'ai du mal à croire ce que j'entends. Le reçu de consigne du Greenwich Hotel. C'est là où j'ai passé la nuit après un congrès. La mallette électrifiée? La mienne? L'alarme et la décharge électrique se déclenchent automatiquement dès que la mallette est éloignée de plus de 25 mètres de la télécommande radio. Le GPS dans ma chaussure. Tous les patients de la clinique portent un GPS dans une de leurs semelles. C'est une formalité qui se généralise dans les hôpitaux des États-Unis pour les malades souffrant d'un trouble lié à la mémoire. Mais vous aussi, vous portiez un mouchard. Je revois la scène de façon nette, devant la friperie, Gabriel en train de projeter sa Converse dans une poubelle publique. Je vous ai dit que j'en avais trouvé un, mais vous ne l'avez pas vu, et vous m'avez cru sans vérifier. Il contourne la voiture, ouvre le coffre et en sort un cric, puis une clé en croix pour changer la roue crevée de la Shelby. Je reste stupéfaite de m'être laissé abuser. Mais toute cette histoire avec Vaughn. Je cherchais un moyen de nous faire quitter New York, explique-t-il en s'accroupissant pour retirer l'enjoliveur de la roue crevée. J'ai lu dans votre dossier ce que Vaughn vous avait fait subir. Je savais qu'en vous aiguillant sur sa piste, je pourrais vous faire aller n'importe où. Je sens la colère monter en moi. Je serais capable de me jeter sur lui pour le rouer de coups. Mais avant, je veux être certaine de bien comprendre. Les empreintes sur la seringue, c'était les vôtres, bien sûr. Vaughn est mort. Oui. Si votre père vous a dit qu'il était 6 pieds sous terre, il n'y a aucune raison de remettre en cause sa version. Je garderai ce secret, bien sûr. D'ordinaire, je ne suis pas un adepte de l'autodéfense, mais dans ce cas, qui pourrait le lui reprocher? Et Seymour? Krieg lui a téléphoné pour lui demander de collaborer avec nous. Plus tard, je l'ai appelé moi-même pour l'inciter à vous livrer de faux indices et à vous orienter vers l'hôpital. Quand? Nous avons toujours été ensemble. Il me regarde et secoue la tête, les lèvres pincées. Pas toujours, Alice. À Chinatown, j'ai attendu que vous soyez sortie de la boutique pour demander au prêteur sur gage la permission de passer un appel. Plus tard, devant le jardin communautaire de Hell's Kitchen, vous êtes resté dans la voiture pendant que vous pensiez que j'appelais mon ami Kenny d'une cabine téléphonique. Avec sa clé en croix, il se met à desserrer les boulons qui tiennent la roue tout en continuant sa litanie. À la gare, pendant que j'achetais nos billets, une adorable grand-mère m'a laissé passer un appel avec son cellulaire. À Astoria, lorsque vous preniez votre bain, j'ai eu tout le temps d'utiliser le téléphone du bar à chicha. Enfin, alors que nous étions sur la route, je vous ai abandonné une bonne dizaine de minutes avec Barbie, sous prétexte d'aller acheter des cigarettes.
Et pendant ce temps, vous étiez en ligne avec Seymour ?
C'est lui qui m'a aidé à être crédible dans ce rôle d'agent spécial du FBI. Le coup du cadavre dans cette usine sucrière, où il n'a bien sûr jamais mis les pieds, c'était son idée.
L'enfoiré.
Il vous aime beaucoup, vous savez. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un ami comme lui. Il insère le cric dans l'encoche et mouline pour lever la voiture de quelques centimètres. En le voyant grimacer de douleur, je me rappelle lui avoir donné la veille un coup de couteau qui a dû lui occasionner une plaie musculaire assez profonde. Mais je ne suis pas d'humeur à m'attendrir.
Et mon père ?
Ah, lui, c'était mon inquiétude. Pas certain que le grand Alain Schaeffer accepte de jouer le jeu. Heureusement, Seymour lui a opportunément subtilisé son téléphone. J'encaisse les coups comme un boxeur acculé dans un coin du ring. Mais je veux savoir. Tout savoir. L'appartement d'Astoria ? Votre ami, Kenny Forrest ? Kenny n'existe pas. J'ai inventé cette histoire de jazzman parce que cette musique me passionne. Quant à l'appartement, c'est le mien. À ce propos, vous me devez une bouteille de Latache 1999. Je me réservais cette Romani Conti pour une grande occasion. À son habitude, il pense que l'humour va apaiser ma colère. Il me provoque, cherche à me faire sortir de mes gonds.
Vous pouvez vous la carrer où je pense, votre bouteille. La propriétaire de l'immeuble, Madame Chaouch, pourquoi ne vous a-t-elle pas reconnu ?
Simplement parce que j'avais appelé depuis la gare en lui demandant de ne rien laisser paraître. Il dévisse complètement les boulons, retire la roue crevée avant de compléter son explication. Agatha, l'assistante de Krieg, était passée quelques minutes plus tôt pour faire disparaître tout ce qui aurait pu m'identifier. Des photos, des dossiers, des factures.
Alors, j'ai très mal à l'épaule. Vous pouvez me passer la roue de secours ? Et vous, vous pouvez aller vous faire foutre ? Parlez-moi de la cabane dans les bois.
Gabriel fait un pas de côté, vérifie son bandage sous son cardigan et sa chemise. L'effort a dû faire saigner la plaie, mais il serre les dents et attrape la roue de rechange. La cabane, c'est celle du vrai Caleb Dunn. Et c'est moi qui ai demandé à Agatha de clouer sur la porte les trois photos que j'avais aperçues dans votre portefeuille.
La Shelby est à vous aussi, j'imagine ?
Je l'ai gagnée au poker lorsque j'habitais à Chicago, dit le psychiatre en se relevant et en s'essuyant les mains.
L'écouter m'est insupportable. Je me sens rabaissé, humilié.
En me menant en bateau de la sorte, Gabriel m'a enlevé la dernière chose qui me restait, la certitude d'être encore une bonne flic.
J'avoue que j'ai eu de la chance, nuance-t-il.
À deux reprises, vous avez failli me démasquer. D'abord, lorsque vous avez insisté pour vous rendre avec moi au laboratoire d'hématologie médico-légale et y déposer l'échantillon de sang.
Je ne suis pas certaine de bien comprendre. Je le laisse poursuivre.
Je connais bien Eliane. La clinique travaille avec son labo depuis longtemps. Je n'ai pas eu le temps de la prévenir, mais elle ne m'a jamais appelé docteur devant vous.
Je ne goûte guère l'ironie de l'anecdote.
Et la deuxième fois ?
Votre collègue, Maréchal. Là, on est vraiment passé à deux doigts de la catastrophe.
D'abord, j'ai eu Dupont qu'il ne soit pas au courant de votre arrêt de travail. Ensuite, lorsqu'il a effectué sa requête sur les caméras de surveillance, il s'est contenté de le faire en entrant le numéro de votre plaque d'immatriculation. S'il vous avait écrit dans son mail que les photos dataient d'une semaine, j'étais foutu.
Je hoche la tête. Une colère folle monte en moi, une rage impossible à canaliser. Un torrent de révolte et d'injustice qui prend possession de mon corps. Je me baisse pour attraper la clé en croix. Je me relève, me dirige vers Gabriel et de toutes mes forces, je lui assène un grand coup dans le ventre.
Chapitre 27. Les ombres blanches. Ne craignons pas de dire la vérité. Ovid. J'assène un deuxième coup de clé en croix, et Gabriel s'écroule dans la poussière, plié en deux, le souffle coupé.
Vous êtes vraiment le roi des salopards.
Il porte les mains à l'abdomen. Je continue à déverser ma colère.
Tout ce que vous m'avez raconté sur votre fils, sur la mort de la sœur de votre femme, c'est dégueulasse d'inventer de tels mensonges.
Il tente de se relever, croise les avant-bras et les met en opposition pour éviter un nouveau coup.
C'est vrai, Alice. Cette partie de l'histoire est vraie, jure-t-il. Sauf que je n'étais pas flic, mais psychiatre bénévole dans une association qui aidait les prostituées.
Je lâche la croix métallique et le laisse se remettre debout.
Ma femme est vraiment partie à Londres avec notre fils, explique-t-il en reprenant son souffle. C'est pour me rapprocher de lui que j'ai quitté la clinique.
Malgré cet aveu, je continue à fulminer.
Cette mascarade vous a bien amusé, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça m'apporte, à moi?
Je me jette sur lui, lui donne des coups de poing sur le torse. Je hurle.
Qu'est-ce que ça m'apporte, hein?
Il enserre mes poings dans ses grandes mains.
Calmez-vous maintenant, ordonne-t-il fermement. Nous avons fait tout ça pour vous aider.
Le vent se lève. Je frissonne. C'est vrai. Obsédé par l'enquête, j'avais presque relégué la maladie au second plan. Je n'arrive pas à croire que je vais m'éteindre. Ce matin, j'ai l'esprit clair et affûté. Les vitres de la Shelby me renvoient une image flatteuse, celle d'une femme encore jeune et élancée, aux traits réguliers, aux cheveux qui flottent au vent. Pourtant, je connais à présent le caractère trompeur et éphémère de l'apparence. Je sais que des plaques séniles sont en train de figer mes neurones et d'encalminer mon cerveau. Je sais que le temps m'est compté.
Vous devez accepter de subir la deuxième partie de l'opération, insiste Gabriel.
Ça ne sert à rien, votre truc. C'est un gadget pour plumer les gogos. Tout le monde sait qu'il n'y a rien à faire contre l'Alzheimer.
Il prend une voix plus douce. C'est vrai et faux à la fois.
Écoutez, j'ignore ce qu'on vous a raconté sur cette opération. En revanche, je sais que notre clinique s'est spécialisée dans la stimulation électrique des circuits de la mémoire, et que ce procédé donne d'excellents résultats.
Je l'écoute. Il essaie de se montrer didactique.
Grâce à de très fines électrodes, on envoie un courant continu de quelques volts dans plusieurs zones stratégiques du cerveau, le fornix et le cortex entorhinal. Cette stimulation va générer des micro-secousses qui vont avoir un effet sur l'hippocampe. On ne connaît pas encore complètement tous les mécanismes d'action, mais l'idée est d'améliorer l'activité des neurones.
Mais ce traitement ne guérit pas la maladie.
Chez beaucoup de malades, on constate une amélioration discrète mais significative de la mémoire épisodique et de la mémorisation spatiale.
Discrète? Génial.
Alice. Ce que je cherche à vous dire, c'est que nous avons encore trop peu de recul. C'est vrai, ce n'est pas une science exacte. Chez certains patients traités, des souvenirs perdus se réveillent. Les symptômes régressent ou se stabilisent. Mais chez d'autres, rien ne se passe et ils continuent malheureusement à s'enfoncer dans la maladie.
Vous voyez bien,
ce que je vois, c'est que rien n'est écrit, et que les symptômes peuvent s'accélérer et conduire à une mort foudroyante, comme ils peuvent stagner. Chez les personnes jeunes dont on a détecté la maladie précocement, il y a des probabilités non négligeables de la contenir.
C'est votre cas, Alice.
Je répète comme pour moi-même. Contenir la maladie. Freiner la progression de la maladie, c'est gagner du temps, martèle-t-il. La recherche fait des progrès chaque jour. Il y aura des avancées, c'est certain.
Oui, dans 30 ans.
Ça peut être 30 ans, comme ça peut être demain. Regardez ce qui s'est passé avec le sida. Au début des années 1980, être diagnostiqué séropositif équivalait à une condamnation à mort. Puis, il y a eu l'AZT et les trithérapies. Des gens vivent depuis 30 ans avec la maladie.
Je baisse la tête et dis d'un ton las. Je n'en ai pas la force. C'est pour ça que j'ai paniqué après la première opération. Je voulais rentrer en France. Voir mon père une dernière fois et...
Il se rapproche de moi et plante ses yeux dans les miens.
Et quoi? Vous mettre une balle dans la tête?
Je le défie du regard.
Quelque chose comme ça, oui.
Je vous croyais plus courageuse.
Qui êtes-vous pour me parler de courage?
Il se rapproche encore. Nos fronts se touchent presque comme deux boxeurs avant le premier round.
Dans votre malheur, vous ne vous rendez pas compte de votre chance. Vous avez un ami qui finance ce traitement et qui a fait jouer ses relations pour vous inscrire dans ce programme. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a une liste d'attente considérable pour bénéficier de ces soins.
Eh bien, comme ça, je libère une place.
Visiblement, vous ne la méritez pas, en effet. Au moment où je m'y attends le moins, je vois ses yeux briller. J'y lis de la colère, de la tristesse, de la révolte. Vous êtes jeune, vous êtes une battante. Vous êtes la femme la plus déterminée et la plus têtue que j'ai rencontrée dans ma vie. S'il y a quelqu'un qui peut toiser cette maladie, c'est bien vous. Vous pourriez être un exemple pour les autres malades et...
Je me fous d'être un exemple, Kane. Je ne gagnerai jamais ce combat. Arrêtez votre baratin maintenant.
Il s'insurge. Donc vous rendez les armes. C'est tellement plus facile, en effet. Vous voulez en finir? Allez-y. Votre sac est toujours sur le siège et il y a encore votre arme à l'intérieur.
D'un pas décidé, Gabriel s'éloigne en direction de l'hôpital.
Il me provoque. Il m'exaspère. Je suis fatigué. Il ne sait pas qu'il ne faut pas m'entraîner sur ce terrain, que je marche depuis trop longtemps au bord du gouffre.
J'ouvre la portière de la Mustang et m'empare de la besace. Je défais les lanières. Le Glock est bien là, ainsi que le téléphone dont la batterie est presque à plat. Je mets le portable dans ma poche machinalement, puis je vérifie le chargeur du pistolet et le glisse dans ma ceinture. Le soleil commence à être haut dans le ciel. Je regarde au loin et cligne des yeux, aveuglé par les reflets argentés qui dansent sur le lac. Sans un coup d'œil à Gabriel, je m'éloigne de la voiture et m'avance sur l'embarcadère. La puissance tranquille du paysage dégage une impression de sérénité et d'harmonie. De près, l'eau est limpide, presque turquoise. Je finis par me retourner. Gabriel n'est plus qu'une silhouette dans l'allée, trop loin pour tenter quelque chose. Je m'empare du Glock en polymère et je respire profondément. Je suis dévasté, laminé, à bout de souffle, au terminus d'une chute sans fin qui a débuté bien des années plus tôt. Je ferme les yeux. Dans ma tête se détachent les fragments d'une histoire dont je connaissais déjà la fin. Au fond de moi, n'ai-je pas toujours eu la conviction que ma vie se terminerait ainsi? Seul, mais libre. Comme j'ai toujours essayé de vivre.
Chapitre 28. D'un seul cœur. Les seuls chemins qui valent d'être empruntés sont ceux qui mènent à l'intérieur. Charles Juliet. Je place le canon froid de l'arme dans ma bouche. Garder la maîtrise. Ne pas devenir une femme à la mémoire morte, une malade que l'on enferme dans une chambre d'hôpital. Décider, jusqu'au bout, du chemin que doit prendre mon existence. En toute lucidité. Personne ne m'enlèvera ça. Ma dernière liberté. Les yeux clos, je vois défiler les instantanés des jours heureux avec Paul. Des milliers de clichés que le vent balaie et emporte dans l'atmosphère, ouvrant un passage vers le ciel. Soudain, je l'aperçois, tenant la main de son père. Cet enfant dont nous n'avions pas encore choisi le prénom et qui n'en aura jamais. Cet enfant que je ne connaîtrai pas, mais dont j'ai imaginé le visage tant de fois. Ils sont là, tous les deux. Dans ces ténèbres bienveillantes, les deux hommes de ma vie. Je sens des larmes rouler sur mes joues. Je garde les yeux fermés, le calibre dans ma bouche, mon doigt sur la détente, prêt à faire feu, prêt à les rejoindre. L'enfant lâche alors la main de Paul et fait quelques pas vers moi. Il est si beau. Ce n'est plus un bébé, déjà un vrai petit garçon. Avec une chemise à carreaux et un pantalon retroussé. Quel âge a-t-il? 3 ans? 4 peut-être? Je reste fasciné par la pureté de son regard, l'innocence de son expression, les promesses et les défis que je lis dans ses yeux. Maman, j'ai peur. Viens avec moi, s'il te plaît. Sa voix m'interpelle.
Il me tend la main. Moi aussi j'ai peur. L'attraction est puissante. Un sanglot me suffoque. Je sais pourtant que cet enfant n'est pas réel, qu'il n'est qu'une simple projection de mon esprit. Viens, s'il te plaît, maman. J'arrive. Mon doigt se crispe sur la détente. Un gouffre s'ouvre en moi. Je sens une tension dans tout mon corps, comme si s'élargissait plus encore cette faille béante que je porte en moi depuis l'enfance. C'est l'histoire d'une fille triste et solitaire qui n'a jamais trouvé sa place nulle part. Une bombe humaine sur le point d'exploser. Une cocotte minute constamment sous pression, dans laquelle bouillonne depuis trop longtemps du ressentiment, de l'insatisfaction, une envie d'être ailleurs. Appuie, presse la détente. La douleur et la peur disparaîtront immédiatement. Fais-le maintenant. Tu en as le courage, la lucidité, la faiblesse. C'est le bon moment. Un tremblement le long de ma cuisse. Le téléphone portable qui vibre dans ma poche. J'essaie de les retenir, mais Paul et l'enfant s'évaporent. La colère succède à la tristesse. J'ouvre les yeux, retire le pistolet de ma bouche et décroche rageusement. J'entends la voix de Gabriel dans le combiné. « Ne faites pas ça, Alice. » Je me retourne. Il est à 50 mètres derrière moi, il se rapproche. « On s'est tout dit, Gabriel. » « Je ne crois pas, non. » Je hurle de désespoir.
« Laissez-moi tranquille. Vous avez peur pour votre carrière, c'est ça? Une patiente qui se fait exploser la tête dans l'enceinte de votre belle clinique, ça ferait désordre, hein ?»«
Vous n'êtes plus ma patiente, Alice. »
Je reprends mes esprits. « Comment ça ?»«
Vous le savez bien, un médecin n'a pas le droit d'être amoureux de sa patiente. »«
Votre dernière tentative est pathétique, Cain. »
Pourquoi croyez-vous que j'ai pris tous ces risques ?
Enchaîne-t-il en avançant d'un pas.
J'ai éprouvé quelque chose pour vous dès que je vous ai vu coucher sur ce banc.
Vous êtes ridicule.
Je ne joue pas, Alice.
On ne se connaît pas.
Je crois que si, justement. Ou plutôt, on s'est reconnu.
Je le repousse.
Vous, le queutard sans limite, amoureux de moi. Une fille dans chaque port, vous croyez que je ne me souviens pas de votre devise ?
Un mensonge pour soigner mon personnage de jazzman.
Vous matez tout ce qui bouge.
Je vous trouve belle à tomber, Alice. J'aime votre mauvais caractère, votre sens de la répartie. Je ne me suis jamais senti aussi bien avec quelqu'un.
Je le fixe sans pouvoir dire un mot. La sincérité que je perçois dans ses paroles me pétrifie. Il a risqué sa peau pour moi, c'est vrai. Hier soir, j'ai même été à deux doigts de lui tirer dessus. Il insiste.
J'ai envie de faire 1000 choses avec toi. De te parler des livres que j'aime, de te montrer le quartier où j'ai grandi, de te préparer ma recette de mac and cheese aux truffes de...
Les larmes brouillent de nouveau ma vue. Les mots de Gabriel m'enveloppent de leur douceur, et j'ai envie de m'abandonner à ce sentiment. Je me souviens de la première fois où j'ai vu son visage sur ce fameux banc de Central Park. Nous avons été complices dans la seconde. Je le revois dans ce magasin de jouets, drapé dans sa cape, faire des tours de magie pour amuser les enfants. Pourtant, je le coupe. Cette femme que vous prétendez aimer, Gabriel, dans quelques mois, vous savez très bien qu'elle aura disparu. Elle ne vous reconnaîtra plus. Elle vous appellera monsieur, et il faudra l'enfermer dans une chambre d'hôpital.
C'est une éventualité. Mais ce n'est pas certain, et je suis prêt à prendre ce risque.
Je lâche le téléphone au moment où sa batterie rend l'âme. Gabriel est devant moi, à moins de 10 mètres.
Il y aura
des matins clairs et d'autres obscurcis de nuages. Il y aura des jours de doute, des jours de peur, des heures vaines et grises dans des salles d'attente aux odeurs d'hôpital. Il y aura des parenthèses légères, printanières, adolescentes, où la maladie elle-même se fera oublier, comme si elle n'avait jamais existé. Puis la vie continuera, et tu t'y accrocheras. Il y aura la voix d'Ella Fitzgerald, la guitare de Jim Hall, une mélodie de Nick Drake revenue du passé. Il y aura des promenades en bord de mer, l'odeur de l'herbe coupée, la couleur d'un ciel de traîne. Il y aura des jours de pêche à marée basse, des écharpes nouées pour affronter le vent, des châteaux de sable qui tiendront tête aux vagues salées, et des cannolis au citron avalés sur le pouce dans les rues du North End. Il y aura une maison dans une artère ombragée, des lampadaires en fonte au halo coloré, un chat roux bondissant, un gros chien bienveillant. Il y aura ce matin d'hiver où je serai en retard pour aller travailler. Je descendrai trois par trois les marches de l'escalier, t'embrasserai en coup de vent, attraperai mes clés. La porte, l'allée pavée, le moteur allumé. Et au premier feu rouge, je réaliserai qu'une petite tétine tient lieu de porte-clés. Il y aura de la sueur, du sang, le premier cri d'un bébé. Un échange de regards, un pacte pour l'éternité. Des biberons toutes les 4 heures, des paquets de couches empilées, de la pluie sur les vitres, du soleil dans ton cœur. Il y aura une table allongée, une baignoire coquillage, des otites à répétition, une ménagerie de peluches, des berceuses fredonnées, des sourires, des sorties au parc, des premiers pas, un tricycle dans l'allée. Avant de s'endormir, des histoires de princes terrassant des dragons, des anniversaires et des rentrées des classes, des déguisements de cow-boys, des dessins d'animaux accrochés au frigo, des batailles de boules de neige, des tours de magie, des tartines de confiture à l'heure du goûter. Et le temps passera. Il y aura d'autres séjours à l'hôpital, d'autres examens, d'autres alertes, d'autres traitements. Chaque fois tu monteras au front, la peur au ventre, le cœur serré, sans meilleure arme que ton envie de vivre encore. Chaque fois tu te diras que, quoi qu'il puisse t'arriver à présent, tous ces moments arrachés à la fatalité valaient la peine d'être vécus. Et que personne ne pourra jamais te les enlever. Merci à Ingrid, à Edith Leblon, Bernard Fixot et Catherine de la Rosière, à Sylvie Angèle, Alexandre Labrosse, Jacques Bartoletti et Pierre Collange, à Valérie Taillefer, Jean-Paul Campos, Bruno Barbette, Virginie Plantard, Caroline Serre, Stéphanie Le Foll et Isabelle de Charon.
Audible espère que vous avez apprécié ce programme.